Vous écoutez Europe 1, il est 22h. Tout de suite le journal, Isabelle Millet.
La vigilance, c'est tout simplement savoir repérer à l'école, au travail, dans les lieux de culte, les relâchements, les déviations.
Faisons bloc face au terrorisme islamiste. L'appel d'Emmanuel Macron lors de l'hommage aux 4 victimes de la tuerie de la préfecture de police de Paris, le président qui muscle son discours. Alors que Christophe Castaner, lui, est sous le feu des critiques et des questions auditionnées par la commission des lois de l'Assemblée, le ministre de l'Intérieur reconnaît un dysfonctionnement sans précédent, mais assure que des mesures ont été prises pour que cela n'arrive plus jamais. On a besoin de reconnaissance, le cri de détresse des agriculteurs.
À un moment donné, on était les sauveurs, on a sauvé la France après la guerre, on a nourri tout le monde et puis maintenant on pollue tout et ça m'énerve.
Journée de mobilisation et de blocage pour dénoncer l'agri-bashing. À Rouen, l'enquête a débuté aujourd'hui sur le site de l'usine Lubrizol. 130 plaintes déjà déposées par des habitants qui une nouvelle fois réclament la vérité. C'est la bonne nouvelle du jour. Taxe d'habitation, le fisc va rembourser un trop-perçu à 6,3 millions de contribuables. On vous dira qui est concerné. Le retour gagnant des Bleus du foot au féminin qui démarrent bien leur qualification pour l'Euro 2021. Victoire 3-0 ce soir au Kazakhstan.
Les filles ont été malgré tout sérieuses, on a fait le travail.
Corinne Diacre, la sélectionneuse de l'équipe de France après cette victoire. Du côté de la météo, encore une journée très agitée, hein, demain avec beaucoup de pluie. Seul l'extrême sud-est aura droit à quelques rayons de soleil, mais le vent sera fort. Ne manquez pas les prévisions complètes d'Anissa Haddadi à la fin de ce journal. Et puis comme chaque soir, 22h20, l'interview écho d'Emmanuel Duteil qui reçoit ce soir Laureline Series, la directrice générale de Jump. C'est une filiale d'Uber. On parlera des trottinettes qui seront bientôt mieux régulées à Paris.
Europe 1.
4 cercueils recouverts du drapeau tricolore alignés ce matin dans la cour de la préfecture de police de Paris, ceux d'Aurélia, Damien, Anthony et Brice. Image forte et émouvante pour cet hommage aux victimes de la tuerie de jeudi dernier, 4 fonctionnaires tués par l'un de leurs collègues. Hommage en présence de nombreux élus, mais aussi de la 5e victime du tueur, blessée, tout juste sortie de l'hôpital. 7 minutes ont suffi à arracher la vie à 4 des vôtres, a dit Emmanuel Macron. Le président qui a pris des accents guerriers pour appeler les Français à faire bloc face au terrorisme islamiste.
Une société de vigilance. Voilà ce qu'il nous revient de bâtir. La vigilance, et non le soupçon qui corrode. La vigilance, l'écoute attentive de l'autre, l'éveil raisonnable des consciences. C'est tout simplement savoir repérer à l'école, au travail, dans les lieux de culte, près de chez soi, les relâchements, les déviations. Ces petits gestes qui signalent un éloignement avec les lois et les valeurs de la République. Une séparation.
Les mots très forts d'Emmanuel Macron. Jamais jusqu'à présent il n'était allé aussi loin. Jean-Rémy Baudot, le président, parle de société de vigilance. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ?
Eh bien, derrière cette expression de société de vigilance, il y a l'idée pour le président que chaque citoyen est et doit être acteur de la sécurité de la société tout entière. En un mot, que chacun peut déceler des signaux, des attitudes qui interpellent dans les administrations, dans les écoles, dans les entreprises, comme en fait on le fait déjà un peu pour les bagages suspects dans les transports. L'entourage du président précise, il ne s'agit pas d'une société de la délation. Ils ont bien vu évidemment qu'il y avait un piège politique derrière tout ça. Dire telle suspicion, ça n'est pas condamner une personne, explique l'un de ses conseillers. En tout cas, je peux vous dire que tout à l'heure j'étais à l'Assemblée nationale, je m'y suis rendu un petit peu plus tôt dans la journée et cette expression elle fait beaucoup réagir. Écoutez notamment le député insoumis Éric Coquerel.
Je crains de semer la division, la peur de l'autre, ce qui est exactement ce que cherchait Daesh. Je trouve que ça entraîne la méfiance en laissant penser que le problème est tellement énorme qu'en réalité, pour reprendre son expression, il s'agirait d'un hydre, c'est-à-dire d'un monstre de l'Antiquité, dont je rappelle que la caractéristique c'est que quand vous l'attaquez, il double de volume. Donc tout ça est très mal choisi dans les mots.
Alors, la notion de société de vigilance, elle n'est pas nouvelle pour Emmanuel Macron. J'en ai retrouvé des traces et une mention en octobre 2017 dans un discours devant d'ailleurs les forces de sécurité intérieure, puis dans un autre discours sur le plan banlieue, c'était en mai 2018, avec toujours cette même idée que les citoyens doivent être impliqués dans leur propre sécurité.
Jean-Rémy Baudot du service politique d'Europe 1. Après cet hommage à la préfecture de police de Paris ce matin et ces mots d'Emmanuel Macron, l'heure des explications, le ministre de l'Intérieur a été entendu à huis clos et sous secret défense ce matin par la délégation parlementaire au renseignement et puis cet après-midi publiquement par la commission des lois de l'Assemblée. Christophe Castaner, ciblé par l'opposition, notamment par Éric Ciotti qui accuse le ministre d'avoir menti. Écoutez sa réponse ce soir. Christophe Castaner reconnaît une grave défaillance mais se défend.
Je suis intimement convaincu de ce que j'ai dit. Qu'ai-je dit ? La vérité.
la vérité portée par les collègues de travail que j'ai pu rencontrer, avec lesquels j'ai pu échanger longuement cet après-midi. Qu'ai-je dit ? La vérité concernant le dossier administratif de l'individu. Qu'ai-je dit ? La vérité des éléments qui étaient connus au moment où je m'exprime. Et c'est la responsabilité qui est la nôtre. C'est de dire toute la vérité de ce que nous connaissons. Ensuite, il y a des instructions judiciaires, il y a des enquêtes qui peuvent faire apparaître des faits différents. En l'espèce, c'est le cas. J'ai jamais dit que le fait terroriste était écarté. J'ai dit l'enquête ne fait que débuter. Ensuite, le procureur national antiterroriste lui-même a très clairement précisé que les faits étaient apparus dans la journée de vendredi. Alors je vous le dis, monsieur Ciotti, le problème n'est pas ce que j'ai dit. Le problème est, pour moi, de savoir comment l'auteur de l'acte est passé au travers des mailles du filet.
Christophe Castaner, ce soir devant la commission des lois de l'Assemblée qui interpellait Éric Ciotti, et bien noté que le député Les Républicains sera demain matin sur Europe 1, l'invité de Sonia Mabrouk à 8h20. Et puis on a par ailleurs des infos importantes ce soir sur la clé USB du suspect Alain Co.
Oui, cette fameuse clé qui inquiète tant les policiers parce qu'on y a trouvé des données personnelles de plusieurs dizaines de fonctionnaires. Eh bien, je peux vous dire ce soir que 160 enquêteurs sont en train de travailler dessus, c'est-à-dire quasiment tous les effectifs disponibles de la brigade criminelle, renforcés par des collègues des autres brigades du 36, une sorte de mobilisation générale en urgence pour vérifier au plus vite, un à un, tous les documents, toutes les données personnelles qui ont été copiées sur cette clé de 64 gigas. Donc c'est une clé considérable avec des milliers de documents. Un travail de titan, nous confiait il y a un instant un responsable de l'APJ qui insiste sur un point important. Cette clé est une clé de travail qui sert essentiellement à copier les documents d'un ordinateur pour les transférer sur l'ordinateur voisin. Rien ne dit que cette clé n'est jamais sortie de la préfecture de police. C'est peut-être tout simplement une clé de travail, mais c'est pour vérifier ça donc que les policiers sont mobilisés au 36 pour au plus vite déterminer quels sont les noms des policiers. Précision encore importante, il n'y a pas de trombinoscope au sens strict du terme avec une liste de policiers, simplement des données individuelles de chaque ordinateur dont le contenu a pu être copié au fil des ans par cette clé.
Les précisions ce soir d'Alain Acco, chef du service police-justice d'Europe 1.
Europe 1, le journal de la nuit, Isabelle Millet.
Merci d'écouter le journal de la nuit sur Europe 1, il est 22h07. France, veux-tu encore de tes paysans ? Ce slogan, il a été entendu aujourd'hui dans les différentes manifestations dans tout le pays. Les agriculteurs qui ont bloqué des axes routiers pour dire leur malaise et pour réclamer davantage de respect de leur métier, mais aussi pour dénoncer les accords de libre-échange et les arrêtés anti-pesticides qui plongent, selon eux, encore un peu plus la profession dans le rouge. Des agriculteurs à bout, comme ce céréalier de Haute-Garonne, qui en a marre d'être considéré comme un pollueur.
Ça coupe des grands champs, ça coupe des parcelles, c'est un emmerdement pour les travailler la terre. Et il faut se mettre dans la tête que si tout le monde fait du bio, eh bien, on crève de faim, tout simplement. Et puis c'est la goutte d'eau qui continue, comme tous les ans, comme sans arrêt, il faut se battre. Parce que si on ne se bat pas, de toute façon, on est un métier maintenant qui ne représente plus rien. Chaque année, ils nous inventent quelque chose de supplémentaire. On met des désherbants très très peu, au prix que ça coûte déjà. On le jette pas par plaisir. C'est nous les pollueurs. À un moment donné, on était les sauveurs. On a sauvé la France après la guerre. On a nourri tout le monde. Et puis maintenant, on pollue tout et ça m'énerve.
Un témoignage recueilli aujourd'hui par Benjamin Peter. Les habitants de Rouen étaient de nouveau dans la rue ce soir, 10 jours après l'incendie de l'usine Lubrizol. Et alors que le parquet de Paris a annoncé aujourd'hui seulement le début des investigations sur le site, la population réclame la transparence, la vérité ainsi qu'une expertise indépendante afin de déterminer les causes exactes de l'incendie, comme Fatima et Isabelle rencontrées par Hélène Terzian.
C'est une question de survie, je crois, parce qu'on nous a un peu menti. Lubrizol fait peur, c'est une bombe à retardement. Voir de la façon dont nos dirigeants ont soulevé le problème, ont éludé le problème, ça fait peur.
C'est trop tard pour avoir peur. Si on a été intoxiqué, on est intoxiqué. Différents ministres qui sont arrivés les uns après les autres en nous disant « Oui, ça sent pas bon, mais c'est pas si grave que ça. » On nous a pris pour des imbéciles.
Fatima et Isabelle qui manifestaient ce soir à Rouen, Lubrizol devra indemniser tous ceux qui ont souffert des conséquences de l'incendie de son usine chimique. C'est ce qu'a dit aujourd'hui la ministre de la Transition écologique. 130 plaintes ont déjà été déposées, notamment par le maire de Rouen. Et les opérations pour enlever les fûts endommagés pourraient débuter la semaine prochaine. Les militants d'Extinction Rébellion sont toujours regroupés ce soir du côté de la place du Châtelet à Paris et sur le pont aux Changes. Ils ont l'intention de passer une nouvelle nuit sur place. Comme hier, les enseignants du lycée Paul Robert au Lila ont décidé d'exercer aujourd'hui leur droit de retrait afin de protester contre les violences entre bandes rivales dans le quartier. Vendredi dernier, un ado de 15 ans est mort devant le lycée, tué à coups de couteau visiblement par d'autres jeunes âgés de 14 à 15 ans qui ont été placés en détention provisoire et mis en examen pour assassinat. Et maintenant, cette bonne nouvelle hein, pour 6,5 millions de foyers. Le fisc va leur rembourser un trop-perçu, ça n'arrive pas tous les jours, Carole Ferry, un trop-perçu de leur taxe d'habitation.
Oui, alors ça concerne qui ? D'abord les 80% de Français pour qui la taxe d'habitation est progressivement supprimée depuis l'an dernier, c'est-à-dire ceux qui ont un revenu fiscal inférieur à 27 000 euros pour une personne seule, 55 000 euros pour un couple avec deux enfants. Et surtout, ça concerne ceux qui sont mensualisé. En fait, quand vous êtes mensualisé, vous payez à l'avance votre taxe d'habitation. On vous étale le paiement sur 10 mois de l'année. Sauf que la réforme prévoit la suppression de 35% du montant cette année. Et cette suppression, eh bien, elle n'a pas été anticipée sur les mensualités. Beaucoup ont payé ces 35% au fil des mois. Et maintenant qu'on connaît le montant exact des taxes d'habitation, eh bien, les impôts remboursent le trop perçu. Alors bien sûr, il y aura le même phénomène l'an prochain. Et vous pouvez continuer à payer tous les mois le dernier tiers de la taxe d'habitation qui vous sera remboursé l'an prochain. Ou vous pouvez demander aux impôts dès le 14 octobre prochain de réduire vos mensualités. Attention toutefois, vous ne pouvez pas complètement les supprimer puisqu'elles incluent également la redevance audiovisuelle. 139 euros par an, un peu plus de 14 euros pendant 10 mois.
Les explications de Carole Ferry du service économie d'Europe 1. Négociations au bord de la rupture ce soir sur le Brexit alors que l'horloge tourne. La sortie du Royaume-Uni, c'est dans 3 semaines. Angela Merkel estime qu'un accord est très improbable. Le président du Conseil européen Donald Tusk accuse le Premier ministre britannique Boris Johnson, je cite, de jouer avec l'avenir de l'Europe. À Alger, pour la première fois aujourd'hui, la police a tenté d'empêcher les étudiants de manifester comme ils le font chaque mardi depuis février. Depuis le début de ce mouvement de contestation inédit, la police qui a procédé à plusieurs arrestations. 3 éminents cosmologues récompensés aujourd'hui par le prix Nobel de physique de Suisse et un Canado-Américain qui ont mis leur pas dans ceux d'Einstein pour éclairer les origines de l'univers et qui ont notamment révélé l'existence d'une planète en dehors du système scolaire solaire.
Europe 1, Isabelle Millet.
Il est 22h12, merci d'écouter Europe 1. On les avait quittés fin juin, très déçus après leur défaite face aux Américaines en quart de finale du Mondial féminin. Les Bleus du foot jouaient ce soir au Kazakhstan. Premier match de qualification pour l'Euro 2021 et première victoire, 3-0. Vous avez suivi ça pour Europe 1, Axel May.
Oui, les Français sont venus ici au fin fond du Kazakhstan pour gagner. Mission remplie, même si le match fut assez laborieux. 0-0 à la mi-temps, mais la gardienne kazakh n'a fait que retarder l'échéance. À l'heure de jeu, Valérie Gauvin ouvre le score. Puis à la 70e, la capitaine Eugénie Le Sommer enfonce le clou. Et en toute fin de match, la jeune Marie-Antoinette Katoto inscrit d'une tête le but du 3-0. On retiendra donc la victoire et aussi la drôle d'ambiance à des années-lumière de ce qu'ont connu les Bleus lors de la Coupe du Monde ou même lors du match amical qu'elles ont gagné vendredi à Nîmes. Prochain match de qualification dans un mois. Le voyage sera moins long puisque ce sera à Bordeaux face à la Serbie.
Effectivement, Axel May, envoyé spécial d'Europe 1 au Kazakhstan. En rugby, l'équipe de France doit affronter l'Angleterre samedi pour la Coupe du Monde au Japon, mais l'arrivée d'un puissant typhon pourrait contraindre les organisateurs à annuler la rencontre. Alors, on n'en est pas encore là, mais c'est une possibilité. Dans ce cas, le règlement de la Fédération internationale prévoit que chaque équipe se voit accorder 2 points. On a une petite inquiétude ce soir sur la santé de Raymond Poulidor. L'ancien champion cycliste français âgé de 83 ans a été hospitalisé en raison d'une grande fatigue. Et puis les fans orphelins de Johnny ont rendez-vous le 1er décembre prochain pour un événement exceptionnel.
On a tous quelque chose en nous de Tennessee, cette volonté de prolonger la nuit, ce désir fou de vivre une autre vie. Ce rêve en nous avec ses mots à lui.
Une journée entière dédiée au chanteur à l'Olympia, presque 2 ans, jour pour jour après sa disparition. Alors ce ne sera pas un concert, mais la projection de film sur le taulier. Un show qui durera 1h30. Il n'y aura pas de présentateur. Ce sera Johnny, le maître de cérémonie, à travers des performances inédites, des interviews expliquant sa relation unique avec cette salle, l'Olympia, où il a joué pas moins de 266 fois. Attention, la mise en vente des places, c'est dès demain 13h. On ne sait pas qui va encaisser les bénéfices avec le micmac autour de l'héritage de Johnny. On jette un œil tout de suite sur la météo. Anissa Haddadi et demain, Anissa, ça sera vraiment pas terrible, encore agité.
Oui, très agité Isabelle, effectivement demain, surtout sur un quart nord-ouest qui comprend la Bretagne, la Normandie, le Nord, les Ardennes, l'Île-de-France et les Pays de la Loire. Là, le ciel sera très nuageux, un ciel qui va vous apporter des averses accompagnées de vents du sud et même quelques orages dans ce secteur demain après-midi. En Aquitaine, Midi-Pyrénées, sur la région Rhône-Alpes et en Franche-Comté, là, les pluies sont soutenues toute la journée. C'est au bord de la Méditerranée, finalement, sur le Languedoc-Roussillon et la Corse, que la journée sera la plus agréable. Vous aurez droit à quelques rayons de soleil au milieu des nuages. Toujours dans le sud, sur les côtes varoises, la Corse et les Alpes, eh bien là, le vent se renforce avec des rafales pouvant atteindre jusqu'à 100 km/h demain après-midi. Cette perturbation demain sera présente jusqu'à jeudi après-midi. La fin de semaine sera donc ensoleillée, c'est la bonne nouvelle du jour. En attendant, les températures pour demain, comprises entre 9 et 14 degrés le matin, 15 à 18 au bord de la Méditerranée. Demain après-midi, il fera frais sous la pluie sur les trois quarts nord, 12 degrés à Verdun, 14 à Lille et Belfort l'après-midi, 16 à Paris, 20 à Bordeaux, 22 à Nice et 24 à Montpellier.
La météo signée Anissa Haddadi.
Europe 1.
Et dans un instant sur Europe 1, la bourse avec Didier Hamaud de Boursier.com, juste avant l'invité d'Emmanuel Duteil qui reçoit ce soir la directrice générale de Jump. C'est une filiale d'Uber et on va parler des trottinettes qui seront bientôt mieux régulées à Paris. A tout de suite sur Europe 1. Et à 22h17 sur Europe 1, comme tous les soirs, on s'intéresse bien sûr à la bourse. Et c'est avec vous Didier Hamaud, rédacteur en chef de Boursier.com. Bonsoir Didier.
Bonsoir Isabelle.
Et Wall Street qui accuse encore le coup ce soir dans un marché qui reste nerveux.
Oui, ça se passe pas bien hein, dans le rouge. Wall Street, le rouge vif même, toujours à l'écoute de la situation internationale. Très tendu et en attendant la reprise des négociations commerciales jeudi à Washington entre Américains et Chinois. D'ailleurs, Donald Trump a décidé de sanctionner 8 grandes sociétés de technologie chinoises, de quoi refaire monter la pression avec Pékin. Ça explique cette baisse assez forte du marché ce soir. Le Dow Jones, moins 1,19%, 26 164 points. Le Nasdaq, donc l'indice des valeurs de technologie, chute de 1,67%, 7 824 points. Ce sont donc toutes les valeurs de technologie qui retombent, à commencer par Apple, moins 1,1%, 224,40$. On a des baisses de plus de 2% sur Cisco, moins 2,9%, IBM, moins 2,1%, AMD, du côté des puces, moins 2,4%, Microsoft, moins 1%, Intel, moins 1,7%. Donc il y a de la casse ce soir, un marché assez déprimé. Le pétrole aussi retombe d'ailleurs d'1%. On redescend à $52,30 le baril. L'euro revient un cran en arrière, là c'est plus calme sur les devises, 1,0950 face au billet vert.
Et la Bourse de Paris a mis fin à une série de 3 séances de hausse.
Bah, quand ça baisse à Wall Street, ça baisse à Paris. Oui, là on n'a pas résisté, après 3 séances de rebond effectivement, le CAC 40 a reperdu du terrain nettement, hein, moins 1,2%, moins 1,18% exactement, 5 457 points sur le CAC 40. Les inquiétudes internationales ont repris le dessus donc, avec les valeurs qui étaient remontées, bah, qui redescendent. On a les valeurs industrielles qui rechutent, comme Imerys, moins 4%, Saint-Gobain, moins 3,5%, Schneider, moins 3%, ou Peugeot, du côté de l'automobile, moins 3%.
Et puis on a une exception, c'est la Compagnie des Alpes qui a progressé en clôture.
Oui, quand même, plus 1,6%, ça va être la saison, hein, 24,45 €, on va y arriver.
C'est quoi, ils font des vêtements de ski, c'est ça?
Non, ils sont exploitants de stations, ah, hein, voilà. Donc ils ont la plagne.
Je savais que c'était autour du ski.
Oui, oui, tout à fait, ils ont la plagne, ils ont les arcs, ils ont plein de stations de haute altitude, donc la saison se profile à l'horizon, et puis ils exploitent aussi des parcs d'attractions comme le Futuroscope ou le Parc Astérix, et qui ont réalisé une belle saison estivale. Et ça explique la remontée du titre de 1,6%, 24,45 € pour la Compagnie des Alpes. Sur les autres places financières, ça baisse partout. Le DAX à Francfort, moins 1% avec Bruxelles. Madrid, moins 1,1%. Milan, moins 1,2%. Le CAC 40, moins 1,18%, 5 457 points.
Merci beaucoup pour ce tour d'horizon, Didier Hamaud de Boursier.com. Et tout de suite, c'est l'heure de l'invité éco.
L'invité éco avec laposte.fr/pro, la solution des pros pour imprimer des timbres depuis son bureau.
Emmanuel Duteil, vous recevez ce soir la directrice générale de Jump.
Bonsoir Laureline Sériès.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes la directrice générale de Jump en France. Jump, c'est la filiale trottinette et vélo du géant Uber. Alors, il y a eu jusqu'à une dizaine d'opérateurs pour les trottinettes en libre service à Paris. Pour ceux qui s'y baladent ou qui y vivent, on les a bien vu. Il va y avoir un appel d'offres qui va être lancé par la mairie de Paris qui doit décider d'ici quelques jours les opérateurs qui vont avoir le droit d'opérer sur ce marché à des trottinettes, et a priori il ne devrait en rester que 3. Pourquoi d'après vous il va y avoir Jump dans ces 3?
Alors nous, effectivement, on va être candidat à cet appel d'offres et on souhaite pouvoir continuer à proposer nos trottinettes et puis en parallèle de nos vélos. Et notre vision, enfin ce qu'on propose, c'est une vision particulière du monde de ces vélos et trottinettes. Et notre vision, c'est de s'inscrire dans la durée. Effectivement, vous l'avez dit, des trottinettes, on en voit beaucoup dans les rues de Paris, on en a vu beaucoup. Et le but, c'est de les rendre acceptables sur le long terme et d'en faire une solution vraiment alternative.
Mais qu'est-ce que vous allez proposer de vraiment intéressant qui pourrait laisser dire à la mairie de Paris, bah tiens, on va les prendre eux en plus de deux autres?
Il y a plusieurs choses. La première chose, c'est qu'effectivement, on veut rendre la trottinette accessible à tous. Et accessible à tous, ça veut dire donc au plus grand nombre de personnes, y compris les personnes à plus faible revenu. Et donc, j'ai le plaisir de vous annoncer ce soir que nous lançons demain une offre tarif solidaire qu'on appelle le programme Boost et qui vous donnera la possibilité pour 5 euros par mois d'avoir accès à l'équivalent de 75 euros de trajet par mois.
Donc là, un tarif, pour ceux qui sont, vous dites, les moins aisés, il faut prouver quoi? Il faut gagner combien pour avoir le droit à ce tarif?
Alors là-dessus, on accompagne vraiment un dispositif qui est déjà existant, qui est proposé par Mobilité Île-de-France et qui donne accès sous conditions de revenus à des tarifications préférentielles pour les transports en commun en région parisienne. Et on s'appuiera sur la preuve de détention de ce pass pour pouvoir avoir accès à notre offre également.
Alors, vous allez proposer un tarif social, mais le gros problème aussi de ces trottinettes, et ce qui énerve beaucoup la mairie de Paris, mais pas que, parce qu'il y a beaucoup de Parisiens qui sont énervés, c'est où est-ce qu'on les range? On en voit partout, elles tombent partout, au beau milieu des parcs, on trouve une trottinette.
Alors, il y a plusieurs sujets. Il y a l'endroit où elles sont garées, effectivement, c'est un point qui a été souvent soulevé, qui est un irritant. Et il y a comment elles circulent dans les rues de Paris. Sur la manière dont elles sont garées, nous allons sortir dans les tout prochains jours différentes fonctionnalités qui vont permettre, dans le centre de Paris, d'empêcher un trajet de se terminer. Si vous êtes un utilisateur, vous ne pourrez plus terminer votre trajet ailleurs que dans une zone de parking dédiée, qui sont les zones de parking que l'on reprend de la mairie de Paris. Et nous allons également proposer, histoire que ce soit aussi un geste d'accompagnement de nos utilisateurs, nous allons également proposer une tarification avantageuse, à l'inverse pour ceux qui se gareront correctement. Donc l'idée, c'est de le faire, d'accompagner les utilisateurs effectivement vers un usage plus vertueux pour tout le monde dans les rues de Paris.
Mais vous n'avez pas peur que ça casse aussi un peu l'état d'esprit? Parce que pour certains, ce qui était drôle ou utile, c'est je la prends, je la pose n'importe comment, puis j'en prendrai une autre après.
Je pense que la valeur ajoutée d'un service comme un vélo ou une trottinette, c'est le service qui vous rend, c'est-à-dire la sécurité que vous avez de savoir que quand vous prenez un vélo ou une trottinette Jump, vous avez la garantie de pouvoir parcourir une certaine distance. Nos vélos couvrent en moyenne, la durée moyenne d'un trajet chez nous, c'est 3 km sur un vélo, un peu plus de 2 km sur une trottinette. Et vous avez la garantie d'une durée assez précise sur un trajet comme celui-ci. Donc la promesse du vélo et de la trottinette, c'est vraiment la promesse, du qualité, service rendu et précision de la gestion de votre horaire.
Alors si j'entends bien, pour convaincre la mairie de Paris, un tarif social, on promet qu'on va les garer correctement, mais la mairie de Paris va aussi imposer, semble-t-il, hein, puisqu'on attend tous les détails, que les trottinettes soient un petit peu plus bridées que ce qui est le cas jusque-là, parce que je crois, si je ne dis pas d'annerie, qu'aujourd'hui on peut aller jusqu'à 25 km/h, ce serait a priori abaissé aux alentours de 20 km/h et peut-être même dans l'ultra-centre de Paris, seulement 8 km/h. C'est également les informations que vous avez en votre possession?
Alors c'est effectivement des informations qui nous sont parvenues, mais j'allais dire qu'on a même anticipé et qui était de toute façon naturel pour nous à mettre en place. Quand on a lancé notre service de trottinette au mois d'avril dernier, on avait d'ores et déjà mis en place une limitation de la vitesse de nos trottinettes à 20 km/h. Partout dans Paris, parce qu'on estime que c'est un élément de sécurité important.
C'est surtout une excellente nouvelle pour vous, parce que si ça va moins vite, on reste plus longtemps dessus, et vu que c'est facturé à la minute.
En fait, oui et non, c'est-à-dire que...
Un petit peu quand même.
L'utilisateur, s'il va moins vite, il aura peut-être aussi moins envie de prendre une trottinette, donc ça se discute. La réalité de l'intention qui était derrière ça pour nous, c'était vraiment un enjeu de sécurité. C'est-à-dire qu'on teste nos trottinettes et on teste beaucoup avec nos équipes d'ingénieurs pour voir qu'est-ce qui garantit la meilleure sécurité. Donc 20 km/h, et effectivement, dans les zones du centre de Paris, comme les Halles, par exemple, on réduit la vitesse à 8 km/h ou dans les zones piétonnes, dans les zones de forte densité, de manière effectivement à ne pas gêner à ce que la trottinette s'insère bien à côté des piétons.
Je disais, vous êtes la directrice générale de Jump, qui est une filiale du géant Uber, les fameux VTC. Qu'est-ce que Uber a à faire finalement de ces trottinettes? C'est parce qu'aujourd'hui, vous ne voulez plus être juste un opérateur de taxi, mais un opérateur global de mobilité?
La mobilité, c'est le sujet d'Uber, effectivement. Et si vous prenez les choses de cette manière-là, en envisageant les alternatives à la voiture individuelle à moyen terme, notamment sur les trajets de courte distance, alors le vélo et la trottinette deviennent des alternatives extrêmement crédibles et performantes. Comme je le disais tout à l'heure, un trajet moyen à vélo, c'est 3 km. Aujourd'hui, on constate que 15% des trajets qui sont réalisés en voiture en Île-de-France font moins de 5 km, une distance qui est tout à fait pertinente à vélo.
Si vous ne gagnez pas l'appel d'offres, Vous partez, vous êtes obligé du coup de Paris ?
Alors évidemment, on se pliera aux demandes de la mairie et on respectera cette demande-là. Néanmoins, on croit beaucoup que, déjà, on a notre activité de vélo également et on croit beaucoup à la complémentarité entre le vélo et la trottinette et encore une fois à l'offre globale. Donc on croit beaucoup que la trottinette ne doit pas être prise isolément et c'est ce qu'on va faire valoir, c'est le fait de pouvoir proposer une alternative, un bouquet d'alternatives, que ce soit le vélo, la trottinette, les courses Uber, dans une même application.
Eh bien, un grand merci Laureline Serias, la directrice générale de Jump en France, était notre invitée. On se retrouve demain, 22h20, sur Europe 1.
Merci à vous et à demain, Emmanuel Duteil.
Europe 1.
Dans un instant, on jette un œil sur les unes de vos quotidiens. Quels sont les sujets que nos confrères de la presse écrite ont choisi de mettre en avant ? À tout de suite sur Europe 1. Et voici donc ce que vous découvrirez demain à la une de vos quotidiens. Préfecture, l'enquête de tous les dangers, titre le journal Libération. Après le temps des hommages, les investigations sur l'attentat qui touche ton cœur, le plus secret de la police française. Ces investigations s'annoncent vertigineuses. L'hommage et le trouble, également à la une du Figaro, toujours après ce drame, cette tuerie à la préfecture de police de Paris. Le Figaro qui rappelle que le chef de l'État a appelé la nation tout entière à se mobiliser face à l'hydre islamique, tandis que le ministre de l'Intérieur tentait de répondre aux vives critiques. Le journal L'Opinion fait lui sa une sur Extinction Rébellion, ce nouveau mouvement anti-système de désobéissance civile. Ils sont quelques centaines de militants à s'être installés hier, place du Châtelet, en plein centre de Paris, avec l'objectif de l'occuper le plus longtemps possible. Revendication large, pas de leader. Les gilets jaunes ont déclenché une violente crise sociale. Avec ce nouveau mouvement, s'interroge L'Opinion, le gouvernement saura-t-il saisir l'insaisissable ? Et puis le visage de Boris Johnson est à la une des Échos, le Premier ministre britannique dont les Européens dénoncent le jeu dangereux. Dans un entretien aux Échos, Jean-Claude Juncker, le président de la Commission, fustige le blame game britannique. Le scénario d'un nouveau report gagne en probabilité. Voilà donc pour ce tour d'horizon des unes de vos journaux que vous retrouverez demain matin dans vos kiosques. Et je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute d'Europe 1 en compagnie d'Olivier Delacroix pour votre libre antenne. Bonsoir Olivier.
Bonsoir Isabelle.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure, 23h. Au revoir.